Merci les musiciens. J'avais demandé à notre frère de pouvoir chanter ce cantique comme introduction à ce que nous allons partager ce matin. Et permettez-moi juste de vous rappeler dans quel contexte le chant que nous venons de chanter a été écrit. Il y a de cela, alors je l'avais noté, c'était en juin 1872, plus de 140 ans je crois. Voilà, son auteur, Madame Annie Oakes, a fait elle-même le récit de son origine. « Je me rappelle, dit-elle, ce matin-là, très occupée à mon ménage et chargée de soucis, je me sentais réjouie par la présence de mon maître et je me disais, soit dans la joie, soit dans la peine, comment peut-on vivre sans lui ? Alors cette pensée, ou plutôt cette prière, me remplit l'esprit. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Assise près de la fenêtre en cette matinée d'été clair et embaumée, j'étais si pénétrée de ce sentiment que je ne pus m'empêcher de tracer ces mots sur un morceau de papier. J'ajoutais d'autres lignes à cette phrase et me trouvais avoir écrit un petit poème tel que vous le connaissez, tel que vous l'avez chanté ce matin. Quelques mois après cela, le pasteur Lowry, auteur de la mélodie de « Regarde à m'angoissé » et de celle de nombreux autres cantiques dont Madame Oakes était la paroissienne, composa un air pour ses paroles et chaque jour à chaque heure fut chanté pour la première fois à un rassemblement des écoles du dimanche à Cincinnati, grande ville de l'Ouest américain. De là, il passa dans d'autres villes, c'est pas marqué, mais je le dis, jusqu'à Toulouse-Saint-Agne. Ce succès, écrit Madame Oakes, fut pour moi une surprise et une grande joie. J'avais peine à croire que ce que j'avais éprouvé avec tant de force, d'autres personnes en grand nombre l'éprouvaient également. Et après plusieurs années, quand une douloureuse épreuve s'abattit sur moi, je sus mieux que jamais combien vrais et réconfortants peuvent être les paroles d'un cantique. Maintenant encore, au culte du temple, quand je les entends chanter, il me semble à peine possible qu'il m'ait été donné à moi de les écrire. Mais je ne cesse de les faire miennes de tout mon cœur, pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi. Voilà, j'avais à cœur de vous rappeler le contexte. On ne connaît pas toujours le contexte dans lequel les cantiques ont été composés. Moi, c'est un cantique qui a bouleversé ma vie. J'ai été bercé dans les cantiques qu'on appelait les cantiques du recueil et des aides de la foi. Et ces messages, et vous savez, bon, on peut chanter parce que bon, des fois, il y a des airs que nous apprécions, etc. Mais quand nous les vivons à notre tour, ça a une portée extraordinaire. Vous savez, cette réalité du besoin de la présence de Jésus continuelle dans nos vies, finalement, ça dépasse les temps et les siècles, et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir être en adhésion avec ce que cette sœur a pu proclamer. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes, au chapitre 18. Nous allons trouver le titre de notre message ce matin dans ces quelques versets. Proverbes chapitre 18 et le verset 12. Proverbes 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé, Proverbe 18, verset 12, je vous le lis dans la version Semeur. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Et le titre de notre message ce matin, c'est l'humilité précède la gloire. On a chanté un cantique ce matin. Il s'est humilié. Je ne sais pas si on peut le remettre rapidement. C'est Julie, s'il te plaît. Le cantique 343 sur les cœurs et cantiques. Qui est exactement ce que nous allons partager ce matin. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Il se dépouillait de tout. Il est venu mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et le troisième strophe, Jésus s'est humilié. Aussi, Dieu l'a couronné. L'humilité précède la gloire. Merci Julie. C'est en tout cas le témoignage et surtout aussi l'exemple pour nous de la vie de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. On pourrait faire que regarder et zoomer ce matin quelle a été la vie de Jésus-Christ pour voir comment il a été humble et revêtu de beaucoup d'humilité. Je voudrais lire quelques versets avec vous dans Philippiens au chapitre 2. Qui reprennent, dont le cantique que nous venons de rappeler s'inspire. Philippiens chapitre 2. Moi, j'ai comme titre à ce chapitre « Christ, modèle d'humilité ». On peut lire juste au chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5, j'en profite pour vous rappeler que ça, c'est un petit peu mon habitude. On va beaucoup lire dans la parole de Dieu. Voilà, je ne sais pas s'il faut s'en excuser, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Et moi, j'aime bien qu'on puisse vraiment lire ensemble et puis... Certains versets, si j'oublie pas, je vous donnerai la référence pour ceux qui prennent des notes. Philippiens 2, verset 5. Regardez combien c'est un exemple pour nous, puisqu'il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9, c'est pourquoi. « Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. L'humilité précède la gloire. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Personne ne peut être élevé aussi haut que le Seigneur Jésus, parce que personne n'a été abaissé, comme lui-même a accepté d'être abaissé, humilié. Ce que nous allons partager ce matin, c'est des choses, vous allez voir, qui sont très très simples, et pourtant essentielles pour notre vie avec le Seigneur. On dirait peut-être même une sorte de clé qui nous ouvre la porte de la grâce. C'est une attitude, un positionnement qui fait que nous obtenons la faveur de Dieu. La Bible, elle est formelle. On y reviendra tout à l'heure, mais je vous le cite maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On le lira tout à l'heure, mais 1 Pierre 5, verset 5. L'humilité précède la gloire. On lit encore ensemble Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, une parabole que le Seigneur nous a laissée, que l'on connaît bien. Je vous dis, c'est des choses simples qu'on va partager ce matin, que nous connaissons bien, mais Seigneur, c'est ce qu'il fait. Luc 18, verset 9, la parabole du publicain et du pharisien. Luc chapitre 18 et le verset 9, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. C'est ça la problématique de ce que nous allons lire dans la suite. Hein. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et regardez le verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Il faut préciser que dans cette parabole, ce n'est pas l'observation de la loi qui est un problème pour le pharisien. Mais c'est la justification devant Dieu qu'il pense mériter par sa pratique de la loi. C'est le problème clé pour le pharisien. Et Jésus dit ceci clairement, que pour être déclaré juste, comme ce publicain, il faut accepter par la foi, et uniquement par la foi, la grâce de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. On va lire encore quelques versets. Matthieu, chapitre 19. Dans deux contextes un tout petit peu différents, mais qu'on va relier ce matin, ce n'est pas un problème qu'on les dissocie. Dans deux contextes un petit peu différents, Jésus a pris un petit enfant, l'exemple d'un petit enfant, pour nous enseigner cette vérité que nous partageons ce matin. Alors, on va commencer par ce texte, Matthieu 19, verset 13. « Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Regardez ce qui est écrit. « Car le royaume des cieux est... » pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Regardez juste le chapitre précédent, Matthieu, chapitre 18. Autre contexte, vous trouverez ces deux passages dans les différents évangiles. Si vous êtes intéressé, regardez-le. Je n'ai pas le temps ce matin, et puis ce n'est pas le but de notre message de dissocier ces deux contextes, mais nous retiendrons juste que le Seigneur a voulu montrer un peu comme un modèle, un exemple pour nous, en présentant un petit enfant. Matthieu 18, verset 1er, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. L'humilité précède la gloire. Eh oui, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais intentionnellement pointer juste une dimension qui va nous intéresser ce matin. Disons-le clairement, ce n'est pas l'humilité comme une vertu chez l'enfant que Jésus a voulu mettre en avant ici. Parce que même si on trouvait de l'humilité chez un petit enfant, on pourrait certainement mettre en avant beaucoup plus d'autres aspects comme la colère, le caprice, la ruse. Est-ce que c'est cette vertu d'humilité chez l'enfant que le Seigneur nous demande de trouver comme modèle? Disons-le clairement, Jésus ne cherche pas à nous infantiliser. Jésus parle de la condition, de l'état, de la situation d'un enfant tel qu'il est. Alors vous pourrez, dans votre méditation personnelle, et vous avez peut-être entendu des messages autour de cela, trouver différents états où le Seigneur veut nous interpeller, nous enseigner. Ce matin, je zoome que sur une dimension qui me semble fondamentale et importante. La situation et la condition d'un petit enfant, c'est sa totale dépendance envers l'adulte qui prend soin de lui. Totale dépendance. Le petit enfant dépend de l'adulte qui prend soin de lui pour se nourrir. Il dépend de lui pour sa protection. Il dépend de lui pour bien grandir, etc. C'est même, disons-le clairement, une question de vie ou de mort. Le petit enfant est dans une situation de grande vulnérabilité. Ce matin, je partagerai trois points autour de ce thème « L'humilité précède la gloire ». La première chose que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est que l'humilité qui précède la gloire, c'est vivre totalement dans la grâce de Dieu. Vivre totalement dans la grâce de Dieu. Il y a un verset qui n'est pas très loin, si on recule en arrière, Matthieu 5. Matthieu 5, vous savez, c'est ce qu'on a appelé les béatitudes, le secret pour avoir le bonheur, le chemin, les voies que le Seigneur a tracées pour que nous soyons heureux. Sermon sur la montagne, vous savez tout ce contexte. Et on va juste lire la première béatitude, on peut lire au verset premier. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux, tout le monde y est ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. La version Semeur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Le petit enfant, il est totalement dépendant des autres. Les petits-enfants, ils doivent tout attendre des autres. Ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une question de vie ou de mort pour lui. L'enfant, écoutez-moi bien, l'enfant, le petit-enfant, il est dépendant du donateur. Et il ne peut rien payer en retour. L'enfant, je le dis comme ça intentionnellement ce matin, le petit enfant, il est d'une certaine manière contraint de dépendre de la faveur des autres, et particulièrement de ceux qui ont charge d'en prendre soin. Il est contraint de dépendre de cette faveur. J'insiste, je pèse les mots, pourquoi ? Parce que c'est ce que le Seigneur aussi désire pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus nous dit que ceux qui veulent entrer dans son royaume, alors que signifie le royaume des cieux ? Eh bien, c'est accepter d'être sous sa souveraineté, sa seigneurie, qu'il soit... Vous savez ce qu'on dit souvent, on a accepté Jésus comme sauveur, mais il faut aussi l'accepter comme Seigneur. C'est ça, entrer dans le royaume, c'est être sous sa souveraineté, pardon. Le Seigneur Jésus nous dit ici que ceux qui veulent entrer dans son royaume, ils doivent vivre leur relation avec le Seigneur comme une relation de totale dépendance. Heureux les pauvres en esprit. Alors, je ne parle pas du tout ce matin, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous avez compris que ce n'est pas la dimension matérielle. Le Seigneur ne fait pas un éloge de la misère. Il connaît et puis nous a énormément enseigné sur l'importance du travail. Il ne fait pas une éloge particulière de ceux qui vivent dans la pauvreté. On les met de côté tout ce qui est matériel. Quoique, mais je ne veux pas partir, quoique le Seigneur quand même a marqué d'une manière assez pointue, même au travers de paraboles, que les richesses pouvaient être un problème et un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas cette dimension qui nous intéresse ce matin. Le mot grec traduit ici par pauvre signifie, entre autres, mendiant, une personne qui est réduite à la mendicité, une personne qui demande l'aumône. C'est une personne qui ne peut par elle-même subvenir à ses besoins. Elle a besoin de se tourner vers les autres, vers ceux qui seront capables d'assurer sa subsistance. Nous aussi, c'est en étant totalement conscient de notre humanité, de nos incapacités, de nos limites dans la condition humaine, de notre totale dépendance de Christ pour survivre spirituellement, que nous pourrons totalement vivre dans la grâce de Dieu. L'humilité qui précède la gloire, c'est vivre totalement dans la grâce de Dieu. Un peu comme cet enfant, vulnérable par lui-même, qui est d'une certaine manière contraint de dépendre de la faveur des autres. Dieu voudrait que nous soyons dans cette position. En cela, il veut que nous soyons comme un petit enfant, contraint dans nos vies de dépendre totalement de sa faveur, de dépendre totalement de la grâce de Dieu. La porte de la grâce a été fermée pour les pharisiens et les chefs religieux, comme nous l'avons lu dans cette parabole. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. Et la preuve, c'est qu'ils cherchaient qu'une chose, c'est à le faire mourir. Ils se sentaient forts spirituellement, par leur connaissance théologique, par leur conviction, par leur tradition, mais ils n'avaient pas cette attitude du mendiant spirituel qui se tourne vers Christ reconnaissant que sans Jésus, il meurt. Question de survie. L'Éternel dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. » Ésaïe 66, verset 2. De toute manière, c'est la seule attitude qui permet à un homme de recevoir la grâce. Tant que l'homme, quel qu'il soit, s'imagine pouvoir se débrouiller tout seul, et nous vivons dans un monde qui est archi comme cela, on n'a pas besoin de Dieu. Tant qu'il s'imagine se débrouiller tout seul, il se ferme lui-même la porte de la grâce. Vous savez, la repentance, qui est le préalable à la conversion, il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans le royaume de Dieu. La repentance passe forcément par ce moment où nous reconnaissons que notre état de pécheur nous conduit à la mort. Et je réalise dans cet instant, et vous tous qui avez fait la repentance, qui avez vécu ces moments profonds, vous vous retrouverez certainement dans cette pensée, ce moment où on a l'impression que sans Christ, nous sommes condamnés à la mort. Quelle qu'ait été notre vie, vous avez pu marcher toute votre vie d'une manière impeccable aux yeux des hommes. Vous avez été peut-être un exemple modèle dans vos traditions, peut-être, on parlera certainement de Saul de Tarse tout à l'heure. Qu'importe, la repentance, elle passe forcément par ce moment où je réalise ce que je suis vraiment et ce que lui est vraiment. L'humilité précède la gloire. Je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai envie quand même de lire ces versets dans Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. C'est l'histoire de ce fils prodigue. Vous savez ce qu'il a pensé, le fils prodigue, à un moment donné ? Il a pensé qu'il n'avait plus besoin de son père. J'en ai plus besoin. Il faut se rappeler, j'ai pas le temps, mais quand même le dire, si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que c'est dans le contexte, le Seigneur a donné ses paraboles pour un enseignement aussi aux pharisiens, aux chefs religieux, qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus s'approchait des gens de mauvaise vie. Mais je veux lire la parabole, Luc 15, verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Dans ce pays, il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Amen. L'humilité précède la gloire. Vous la voyez, la gloire, là? La robe, les anneaux, le soulier, le veau? L'humilité précède la gloire, alors que, comme nous l'avons lu, on le voit dans ce texte, eh bien, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Eh bien, le jeune homme, il pensait qu'il n'avait plus besoin de son père. Et ça doit nous interpeller, on va y revenir tout à l'heure. Le seul moyen d'entrer dans la grâce de Dieu est surtout d'y demeurer. C'est de reconnaître notre impuissance, que nous avons perdu par nous-mêmes la maîtrise de nos vies, tout comme le fils prodigue, afin de vivre dans une totale dépendance. L'humilité qui précède la gloire, oui, c'est vivre totalement dans la grâce de Dieu continuellement toute notre vie. Le deuxième point que je laisse sur votre cœur, c'est l'humilité qui précède la gloire, c'est vivre totalement aussi sous la protection de Dieu. L'enfant, je reprends cette image de ce petit enfant qui a été présenté. L'enfant, il est très vulnérable. Il est dans cette totale dépendance aux autres. Et c'est auprès de ses parents, alors parents ou autres qui ont cette charge nourricière, en tout cas c'est auprès d'eux qu'il va trouver un rempart protecteur pour sa vie. Face à un monde extrêmement dangereux pour lui, un enfant va trouver auprès de l'adulte le seul rôle protecteur et rempart comme une forteresse pour sa vie, où il trouvera paix, sérénité, sécurité dont il a besoin. En tant qu'enfant de Dieu, croyez-moi, nous sommes dans un monde extrêmement hostile et dangereux sur le plan spirituel, mais pas que. Et disons-le clairement, sans la protection du Seigneur, nous sommes perpétuellement en grand danger. Je ne dis pas cela pour nous faire peur, mais je dis cela pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience de notre état réel, de notre condition, pour nous débarrasser de tout sentiment d'autosuffisance à l'égard du Seigneur. Je peux me débrouiller tout seul. Ça, c'est le rêve de l'enfant. Ah, il me tarde quand je serai grand. Je fais une petite parenthèse parce que ce matin, dans un don spirituel, le Seigneur nous a rappelé qu'il ne fallait pas rester un petit enfant dans cette dimension de l'amour qui « je t'aime parce que tu me donnes ». Et c'est vrai, je reviens sur cette image du petit enfant. Ce n'est pas ces vertus que l'on peut trouver effectivement dans le petit enfant, puisque d'ailleurs, on pourrait trouver paradoxal que l'apôtre Paul dit souvent « ne restez pas comme des petits enfants ». Alors, Jésus nous dit qu'il faut être comme le petit enfant, Paul il dit qu'il ne faut pas rester un enfant. Donc, il y a plein de dimensions ce matin qu'on ne partage pas intentionnellement, hein. Mais Vous voyez, par exemple, tout ce qui est la nouvelle naissance, il faudrait lire Jean chapitre 3, la rencontre avec Nicodème. Forcément, quand Jésus prend un petit enfant, il dit « Mais si vous ne naissez d'eau et d'esprit, si vous ne redevenez pas une nouvelle créature, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Et ce petit enfant, lui, il a besoin de croître et de grandir, etc., etc. Si comme l'enfant, je reconnais qu'en dehors de Jésus, je suis la proie de tous les dangers, alors je me réfugierai sous son aile pour me sentir en totale sécurité. L'humilité qui nous ouvre la porte de la grâce, c'est celle qui reconnaît qu'en nous-mêmes, dans nos vies, par notre condition humaine, nous n'avons pas toutes les capacités. Alors je dépends totalement de lui, aussi naturellement qu'un enfant le fait. Un enfant, dès qu'il y a quelque chose qui est insécure pour lui, il va se blottir automatiquement dans les bras qui le sécurisent, où il n'a pas peur, où il est protégé, où il est sous la protection. Et nous aussi, nous voulons être sous la protection permanente de notre Seigneur. C'est à ce moment-là que je pourrai voir sa gloire se manifester. L'enfant de Dieu, il sait une chose. Il sait que quoi que ce soit qui peut lui arriver, de bon, de mauvais dans sa vie, l'enfant de Dieu sait que tout ce qui peut lui arriver est sous le contrôle de son Père. Alléluia. Il ne vit jamais seul, mais il sait que son Père est en permanence à ses côtés. Un peu comme Jésus lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate. Pilate a dit ceci à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Nous aussi, dans notre marche, ici-bas sur la terre, nous devons réaliser que toutes les situations que nous pouvons vivre, elles sont toujours sous le contrôle de notre Père. Il a tout pouvoir pour qu'à un moment donné, une circonstance soit complètement changée, transformée. Vous vous rappelez quand Jésus a été arrêté, quand il s'est livré, on peut le dire comme ça, hein, je ne pourrais pas demander à mon Père qu'il envoie des anges. C'est ça, l'humilité qui précède la gloire, c'est vivre totalement sous la protection de Dieu. Parfois nous traversons la tempête et comme le dit le psalmiste, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, verset 2 et le verset 3. Vous imaginez quelle belle image. Un enfant de Dieu, qui que vous soyez, tourmenté par la tempête dans votre vie, que ce soit peut-être la maladie, quelque circonstance que ce soit, et le regard du Père qui vous voit tranquille, paisible dans ce repos de la foi tel que cela nous est prêché actuellement par notre pasteur, vous ne croyez pas que ça réjouirait notre cœur de Père et que ça ne serait pas le témoignage que nous sommes véritablement en confiance, sécure dans les bras de notre Père. L'humilité précède la gloire. Je voudrais que le retourne. Troisième point, l'humilité qui précède la gloire, c'est être totalement dépendant de Dieu dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Matthieu, chapitre 7, lisez avec moi s'il vous plaît. À partir du verset 7, c'est un encouragement à la prière. Regardez cette simplicité de l'Évangile. Je vous ai dit ce matin, on partage des choses très simples. Matthieu 7, verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit ? Demandez et l'on vous donnera. Ce n'est pas compliqué l'Évangile, hein ? C'est ça la clé de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Nous vivons, vous savez, dans un monde où on nous dit, on nous forge un petit peu, vous savez, tu as besoin de personne, il faut que tu sois capable d'assumer ta vie toute seule. Et nous devons apprendre à nous suffire nous-mêmes, en plus dans un monde qui fait quand même le culte de l'individualisme. Il n'en va pas de même dans le royaume des cieux. Je réalise mon incapacité. Il y a certainement plein de besoins dans votre vie. Vous savez, il y a des choses, des fois, parfois, on ne pense même pas à le demander au Seigneur, et c'est un besoin qui est pressant dans nos vies. Je réalise mon incapacité pour me tourner vers le Seigneur dont je dépends totalement. Jésus a dit ceci, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. L'humilité dont nous parlons aujourd'hui, c'est une marque tellement importante de la vie de Jésus, la trace qu'il nous a laissée ici-bas sur la terre. Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Je crois qu'on l'a lu ces derniers temps, hein, ce verset. Matthieu 11, verset 29. Vous savez, on a trop tendance parfois à considérer Jésus comme un électron libre. Dans sa vie, il suit bas sur la terre. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Jésus a vécu sur la terre en totale dépendance de son Père, à tel point qu'il dit lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans Jean 14, verset 9. Et il dit plus loin, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. » Le Fils le fait aussi, pareillement, dans Jean 5 et le verset 19. Et c'est bien dans la vie de prière que nous voyons la totale dépendance de Jésus vis-à-vis de son Père. Totale dépendance dans tous ses besoins. Comme ce jour terrible, rappelez-vous, à Gethsémané, où Jésus a cru qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Jusqu'à la croix. Ce n'est pas à Gethsémané qu'il pouvait dire « Tout est accompli ». Et il demande à son Père d'avoir la force, le soutien pour aller jusqu'au bout. La parole de Dieu dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. L'humilité qui précède la gloire, qui ouvre la porte de la grâce, c'est celle qui est vécue dans une totale dépendance de Dieu, dans tous nos besoins. Tout est OUS, souligner tous nos besoins. Avant de conclure, je voudrais quand même lire un verset avec vous dans 1 Pierre 5. En Pierre 5, verset 5, nous allons revenir sur ce verset que j'ai lu tout à l'heure en introduction. De même, en Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, soulignez-le tous, enfin pas dans votre cœur, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Amen. L'humilité qui précède la gloire afin qu'il vous élève au temps convenable. Je voudrais maintenant conclure ce message. Un homme a dit ceci, Dieu peut tout. Et ça nous a été rappelé encore tout à l'heure. Dieu peut tout, il peut absolument tout. Si nous ne portons pas, si nous ne portons pas atteinte à sa gloire. N'oublions jamais ce qui s'est passé dans le ciel lorsque Satan, enflé d'orgueil, a voulu s'extraire de la dépendance de son Créateur. C'est là que tout a commencé. Il a été chassé de la présence de Dieu. Mais, nous savons par la suite, le diable a entraîné la race humaine toujours sur cette base de l'orgueil, de cette envie d'indépendance vis-à-vis du Créateur. Et je vais dire peut-être, alors, prenez-le, comment dire, vous êtes tous des adultes. Ça peut être un peu bizarre la façon dont je vais vous le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Nous sommes en danger chaque fois que toute forme d'orgueil est présente dans nos vies et nous empêche de vivre dans une totale dépendance de notre Père Céleste. Bien sûr que vous vous dites, je ne suis pas comme le pharisien là, debout, machin. Je suis plutôt comme le publicain. Faisons attention. Je le dis et j'assume mes propos même s'ils peuvent être un peu choquants. Nous sommes en danger quand nous grandissons dans la foi, quand nous faisons des expériences avec Dieu. Je le dis, nous sommes en danger quand notre vie se conforme de plus en plus à celle de Christ. Nous sommes en danger chaque fois que nous obéissons de plus en plus au commandement divin. Vous allez dire, tu es vraiment choquant. Je ne dis pas que nous ne devons pas vivre ces choses. Bien au contraire, nous devons grandir dans la foi. Nous devons être de plus en plus semblables à Christ. Nous devons de plus en plus nous conformer au commandement divin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous sommes en danger de ne plus réaliser ce que nous sommes, des pécheurs sauvés par grâce. Et qui il est vraiment ? Dieu soit béni pour tous les progrès que nous pouvons et que nous devons faire. Mais la porte de la grâce nous sera fermée chaque fois que nous chercherons une quelconque forme de justice dans ces choses. Il est là le danger. De nous trouver arrivés à un moment donné. Seigneur, je mérite que tu me bénisses. Par contre, la porte de la grâce, elle nous sera grande ouverte chaque fois que nous nous présenterons à lui totalement dépendant de la justice de Dieu qui nous a été offerte en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et pour terminer, nous allons lire le témoignage d'un homme irréprochable. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, allez, on lit les 9 premiers versets, et c'est un petit peu long, mais c'est terminé, je ne dis plus rien après. Philippiens 3, verset 1er. Un homme irréprochable quant au respect de la loi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, vous allez voir. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, verset 4, moi aussi cependant. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. C'est l'apôtre Paul qui parle, hein ? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, comme le pharisien dont on a entendu parler tout à l'heure dans la parabole, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. L'humilité qui précède la gloire. Levons-nous ensemble, nous allons terminer par la prière, en demandant au Seigneur de nous garder, de nous raccompagner. Éternel notre Dieu, avant de nous séparer, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons encore considérer avec sérieux ce que tu as voulu mettre sur chacun de notre cœur, moi le premier, afin que nous puissions, Seigneur, toute notre vie dépendre totalement de ta grâce. Merci pour tous les progrès que nous pouvons faire avec toi. Merci pour toutes ces expériences merveilleuses. Merci de nous aider chaque jour à obéir à tes commandements divins. Mais aide-nous, Seigneur, à ne trouver jamais une forme de justice devant toi à cause de toutes ces choses. Nous voulons et nous te prions pour cela et je te prie pour chacune de nos vies que nous puissions totalement dépendre de la justice que tu as manifestée en Jésus-Christ à la croix du calvaire. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, oui, nous voulons le vivre, Seigneur, chaque jour à chaque heure. J'ai besoin de toi. Dans aucun moment de notre vie, nous voulons dire « j'ai plus besoin de toi ». Mais au contraire, dans la joie, comme dans la peine, dans les moments heureux, Seigneur, comme dans les moments difficiles, oui, nous avons besoin de toi. Comme ce petit enfant qui est vulnérable, Seigneur, nous aussi nous sommes vulnérables. Nous sommes en danger de mort spirituelle si nous ne sommes pas totalement dépendants de toi. Merci, Seigneur, pour ces instants que nous avons passés. Nous remettons nos vies, nos cœurs entre tes mains. Te demandons, Seigneur, de nous raccompagner. Et là où tu nous mettras dans les prochaines heures, prochains jours, que nous soyons véritablement des témoins à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.